Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks?
No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Ciambrulli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl. Can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, 17e épisode déjà de la saison 6. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va bien, oui.
Ça va bien, on va pouvoir découvrir avec toi bien une nouvelle édition de cette émission qui vous parle séries télévisées, avec un petit compte-rendu des dernières séries, saisons, que tu as pu revoir pour nous avec ton œil critique.
Oui, et cette semaine-ci, j'ai un petit peu plus de nouveautés à présenter. Je vais présenter... alors. C'est peut-être aller un peu fort que de parler de deux coups de cœur, surtout pour le deuxième, tu verras. Mais bon, ce sont les séries qui m'ont le plus enthousiasmé cette semaine-ci, en tout cas.
Bon, on est curieux.
Au niveau des nouveautés, donc, je commence par celle qui est vraiment une très très bonne surprise, je dirais ma première vraiment bonne surprise de l'année 2019. C'est une série proposée sur la toute nouvelle plateforme de YouTube, hein, c'est YouTube Premium, me semble-t-il.
C'est possible, oui.
Enfin, bref, donc YouTube se lance à son tour dans les séries télévisées et nous propose notamment, j'en avais vu déjà quelques-unes précédemment qui ne m'avaient pas convaincu, mais cette fois-ci, ça s'appelle Wayne et c'est vraiment pas mal du tout.
Oui, je t'en veux parce que je ne suis pas très très disponible pour la suivre celle-là, mais elle me parle. Donc voilà, j'ai un peu de retard.
Ah, écoute...
On n'est pas alignés. Et chaque fois que j'envoie des petites images par-ci, par-là, alors que je bosse, bien, je ne sais plus bosser. Donc, c'est qu'elle est bonne, cette série.
Oui, c'est vrai qu'elle est très, très accrochante et très attachante aussi. Alors, pour ceux qui se demanderaient dans quel style on se trouve, ben, si vous avez vu l'année passée The End of the Fucking World, on est vraiment... très proche de ça, on est vraiment dans la même lignée, c'est-à-dire une sorte de road trip de deux adolescents très très marginaux et un peu pas tout juste dans leur tête, on va dire, hein, au niveau de leur capacité à provoquer un certain nombre de violences, voulues ou pas d'ailleurs. Il y a la même ambiance, oui, touchante, un peu nostalgique, un peu découverte de soi et de l'amour. Oui, c'est vraiment très agréable à suivre. Et je ne sais pas, bon, je sais que tu n'as pas eu l'occasion d'en voir beaucoup, mais en tout cas, j'ai pas du tout l'impression que ça fasse doublon avec la série que j'ai citée précédemment. On est avec des personnages malgré tout suffisamment différents et des trames narratives suffisamment différentes pour ne pas avoir l'impression d'avoir juste une réplique qui surferait sur la vague par opportunisme, quoi. Malgré tout, peut-être déjà parce que pour le premier, on était en Angleterre et cette fois-ci, on se retrouve plutôt au fin fond des États-Unis. Pour les personnages qui, s'ils sont marginaux, ne le sont pas forcément de la même manière non plus, pour la dynamique qu'il y a entre les deux personnages principaux aussi. Enfin, on a la même ambiance, entre guillemets, mais on n'a clairement pas la même série. Et donc, on ne s'ennuie pas. On ne se dit pas, oh oui, c'est du déjà vu.
Ben, à comparer, moi, je trouve qu'il y a plus d'humour.
Oui.
Notamment avec ceux qui les pourchassent, les frères. Bon, on va pas en dire plus.
Oui, c'est vrai, tout à fait.
Mais toutes ces situations-là sont assez cocasses et voilà, ça donne une petite touche en plus.
Oui, il y a un côté peut-être un petit peu plus... plus rond au niveau des personnages, c'est vrai, un petit peu, mais comme on peut faire la comparaison entre la version anglaise ou la version américaine de The Office, où il y a quelque chose d'un petit peu plus âpre, plus cynique dans le propos du côté anglais, et puis les Américains ont toujours le don de... Alors, c'est vraiment pas de rendre les choses sirupeuses. Hein. Au contraire, c'est pas sirupeux du tout. Mais c'est vrai que les personnages sont un petit peu moins rugueux à l'approche. Quoi. C'est vrai qu'ils sont plus attachants, peut-être moralement aussi moins troubles. Même si ben, c'est vrai que le personnage principal, le personnage de Wayne, donc, est loin d'être un enfant de cœur, et on assiste quand même à un certain nombre de violences de sa part dès le début de la série. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est pas le personnage de The End of the Fucking World qui pensait tout simplement être un tueur en série, quoi. Il y a quelque chose d'un petit peu différent, c'est vrai, à ce niveau-là, qui rend la série... C'est vrai, hein, peut-être un peu plus drôle. Le côté drôle de la série anglaise jouait plus sur un côté... Alors, c'est pas vraiment involontaire, mais ici, on a vraiment des scènes où on voit que c'est fait pour nous faire rire, tandis que dans l'autre, c'est plus intégré à l'image, à la manière dont il présente les choses. C'était pas du tout au niveau de l'intention présentée de la même manière. Tu as raison de le dire. En tout cas, pour le moment, je n'en ai vu que 4 épisodes, 4 sur 10, me semble-t-il, mais je suis vraiment emballée. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne s'agit pas d'une saison unique. Je dois t'avouer que j'ai pas été vérifiée. Tu sais que je préfère toujours découvrir et souvent me prendre la déception en pleine figure. Mais voilà, hein, c'est chacun son style. Donc voilà, Wayne, c'est proposé par YouTube pour le moment et ça vaut vraiment le coup. Surtout pour ceux qui ont aimé donc The End of the Fucking World, c'est très plaisant. À noter aussi qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs ou d'actrices qu'on connaît si on est fan de série, mais qui ne sont pas non plus des têtes qu'on voit tout le temps. Et donc c'est un vrai plaisir d'avoir l'occasion de les voir dans cette production-là. Je passerai à la deuxième série, alors ça, qui explique peut-être mon holà sur le côté coup de cœur de la semaine, parce que c'est vraiment plus un guilty pleasure qu'autre chose. Ça s'appelle The Passage. C'est une série proposée par la Fox. Jusqu'à présent, j'en ai vu que 2 épisodes. Et c'est un modèle de série, disons, qu'on voit régulièrement proposé, qui jusqu'ici ne semble pas avoir réussi à prendre. Mais c'est vrai que régulièrement, on voit ce genre de proposition, c'est-à-dire une série qui va nous faire suivre un enfant et un homme dans une sorte de poursuite où l'homme... à la fois prend à cœur de protéger l'enfant contre qui que ce soit. Ici, en l'occurrence, une agence qui veut faire des expériences scientifiques sur l'enfant. Et puis aussi une sorte de découverte progressive d'une fibre paternelle qui pourrait le lier à cet enfant. Ici, pour le pitch, qui est vraiment juste un prétexte qui se trouve tout autour, mais... C'est vraiment pas pour ça que la série est plaisante, en grande partie parce que justement toute cette partie-là est, quand on y pense, et même il faut pas y penser très très longtemps pour trouver ça assez ridicule, mais je le présente quand même. Donc il y a une sorte de virus qui menace l'ensemble de l'humanité, et pour se protéger contre ce virus, une sorte de laboratoire d'État, je ne sais pas exactement à quoi ils correspondent, mais ont découvert une antidote au fin fond de l'Amérique latine. Le problème, c'est que cet antidote, en fait, transforme assez rapidement ceux qui l'ont prise en vampire, ou en tout cas ils ne disent pas le nom, mais ce sont des personnes assoiffées de sang, donc qui sont obligées d'être assez rapidement maîtrisées, enfermées dans des cages, et ils ont une sorte d'abreuvoir dans leur cellule où on déverse du sang régulièrement pour qu'ils puissent se nourrir. Donc voilà, ça place l'ambiance, et ils sont pas super beaux non plus, quoi. On voit qu'ils ont un aspect relativement cadavérique, je sais pas comment le dire autrement.
Ce sont pas des vampires sexy, quoi.
Ah non, c'est pas Twilight, hein, ça c'est clair. Ils ont découvert que plus la personne qui prenait cet antidote, entre guillemets, était jeune, et plus les effets vampiriques apparaissaient dans longtemps. Donc ils se sont dit, tiens, si on donnait ça à des enfants, si ça tombe, ça marchera. Bon, c'est complètement con, admettons-le, au niveau de l'idée.
C'était déjà con juste avant, mais oui, on continue et on s'enfonce.
Oui, voilà, c'est complètement débile. Mais donc, ils ont envoyé des agents de l'État, des États-Unis, rechercher un enfant qui n'avait aucun parent et donc dont personne ne remarquerait la disparition, pour pouvoir l'enlever et faire des expériences sur l'enfant en question, ce qu'ils ont fait. Et le seul problème, c'est qu'un des deux agents va se prendre d'amitié assez rapidement pour la jeune fille qu'ils ont trouvée, et va décider de lâcher son partenaire pour partir en cavale avec l'enfant en question et la protéger évidemment de l'agence qui... à aucun moment ne se dit « peut-être qu'on pourrait juste trouver un autre enfant ». Non, ils ont décidé que c'était celui-là et qu'ils voulaient absolument. Donc, ils vont le poursuivre jusqu'au bout de la vie. Nous, on suit l'histoire avec eux. Au niveau de... Quand je dis que c'est une idée qui a déjà été essayée précédemment, je pense notamment à une série comme « Believe », qui était aussi un petit peu sur ce principe-là d'un enfant qui était protégé, enfin d'une jeune fille qui était protégée par un homme en cavale, etc. Donc on a vraiment une volonté de travailler autour de la question de la fibre paternelle, entre guillemets, dans ce genre de série-là. Et c'est quelque chose qui a toujours tendance à, je sais pas, à me plaire, à m'attendrir. C'est Ah, flûte. Machin Grosselard, j'ai oublié
ah oui,
son nom.
Ça.
C'est un nom composé, Grosselard, qui jouait dans une série pour ados dans les années 90.
Donc, tu sais pas t'aider.
Non, tu sais pas m'aider. Bon, en tout cas, il avait fait un retour relativement remarqué déjà depuis quelques années. Et là, c'est lui qui tient donc le rôle de l'agent qui se prend d'amitié pour la petite fille, et je dois dire que il le fait assez bien, il est assez vite convaincant, et donc c'est directement pour la relation qui se noue entre cette fille et la
et Marc Paul, hein.
Ah voilà, Marc Paul Grosselard qui me fait fondre et me fait vouloir poursuivre cette série-là, même si j'ai assez peu d'espoir sur le fait qu'elle dure très très longtemps. Hein. J'ai peur qu'elle ne passe pas la rampe de la première saison. Mais voilà, c'est le genre de série que j'ai quand même envie de suivre pour le temps que ça durera, quoi. Et aussi pour le côté un peu what the fuck du scénario.
Allez, on poursuit la même petite fille.
Ils sont capables de... Si déjà dès le pilote ils sont capables d'être aussi à côté de la plaque, on se dit qu'ils peuvent aller très très loin, quoi. Et
oui,
ça peut être assez vite drôle.
Ils l'ont justifié, hein. Imagine qu'elle aille témoigner et dénonce l'affaire.
Oui.
Hein?
Oui.
Il va falloir s'acharner dessus.
Il va falloir s'acharner un fameux coup, oui. Voilà. Si vous aimez bien rire, ou bien que vous aimez bien les hommes en manque de paternité, je vous conseille The Passage, donc une série de la Fox.
Magnifique.
Magnifique, exactement. Je vais terminer cette fois-ci pas par une nouveauté, mais par une série qui en est à sa deuxième saison. J'avais envie de parler d'un épisode en particulier de Counterpart. Alors Counterpart, c'est donc une série qui nous propose deux mondes parallèles qui vont s'affronter sur fond d'ambiance un peu d'agence secrète, un peu comme pendant la guerre froide, hein, puisque ça se passe en plus à Berlin, c'est encore plus appuyé ce côté guerre froide. Je voulais parler principalement de l'épisode 6, parce que par rapport à la saison à laquelle j'avoue accrocher très très moyen, malheureusement, je regarde, mais sans grand intérêt, et souvent en perdant assez rapidement mon attention, mon regard va un petit peu à gauche, à droite, pendant que je suis la série. Mais cet épisode 6, lui, m'a vraiment accroché, parce qu'il nous présente la raison pour laquelle, ou en tout cas les origines de cette séparation entre les deux mondes parallèles. Et là, c'était particulièrement intéressant et vraiment palpitant, quoi. Donc je me dis, y a moyen que cette série continue quand même à nous offrir quelque chose, et qu'elle ait aussi un propos véritablement intéressant, autant au niveau philosophique et existentiel qu'au niveau plus d'un commentaire un peu géopolitique, sur les relations entre deux blocs idéologiques qui pourraient s'affronter, ou deux mondes parallèles. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup à explorer autour de ce thème-là. Et cet épisode-là le faisait particulièrement bien. À voir s'ils arriveront à suffisamment capitaliser là-dessus, ou bien s'ils vont se perdre dans des intrigues secondaires, où j'ai l'impression que la série finit par se diluer tellement qu'on perd qu'on perd un petit peu l'intérêt qu'on avait. C'est vrai que, par exemple, moi, c'était en grande partie le personnage principal qui s'appelle Howard, me semble-t-il, qui me plaisait dans la saison 1, et la série est beaucoup moins centrée sur lui en saison 2. Et c'est pour ça que souvent, je décroche, quoi. Mais l'épisode 6, vraiment, il valait le coup. Donc voilà, ça valait la peine de le souligner.
Voilà pour la précision, merci. On va marquer une petite pause, si tu veux bien.
Je veux bien, on va s'écouter The Night We Met de Lord Huron, entendu dans The Affair.
Suite de Série Folie, on va parler du sujet du jour avec Aurore. Quel est-il ?
On va parler de la tension qu'arrive à maintenir ou à créer les séries télévisées. Bon, la tension, évidemment, qui est une forme de nécessité quand même, hein, pour la plupart des fictions qui font partie de ce genre un peu répétitif au bout d'un certain temps. Donc pour réussir à maintenir l'intérêt, voire le relancer quand c'est nécessaire, ben, l'attention, c'est évidemment très très utile. J'ai essayé de réfléchir à quel type d'attention, quel type de tension,
plutôt, oui.
Les séries pouvaient nous proposer. Et puis on va un petit peu décomposer tout ça. Alors, je me suis dit qu'il y avait trois, peut-être une petite quatrième, mais trois grandes catégories de tensions différentes qu'on pouvait retrouver dans les séries. Il est très probable que j'ai pu en oublier, hein, comme toujours.
Mais oui, on ne t'en voudra pas.
Tout ça ne fait que sortir de ma pauvre petite tête qui, à chaque fois qu'elle a fini, se dit toujours « Ah, flûte, j'ai oublié de penser, de parler de ça aussi ». Donc, ça n'est jamais exhaustif, mais c'est une sorte de gros résumé à partir duquel on peut commencer à réfléchir. Donc, les trois catégories auxquelles j'ai pensé, c'est la tension narrative, évidemment, et on va essayer de voir quelles sont les différentes formes de tension narrative qu'on va pouvoir trouver dans les séries télévisées. La tension qu'on a entre différents personnages, et puis la tension amoureuse plus spécifiquement, qui, me semble-t-il, peut être mise à part parce que c'est vraiment une forme de tension quand même très importante pour un grand nombre de séries, et pas uniquement d'ailleurs les séries les plus romantiques ou adressées uniquement à un public féminin en manque de sensations fortes. On va retrouver cette tension amoureuse dans un panel relativement large de séries. Et puis, j'ai dit peut-être une petite quatrième aussi, mais je sais pas trop si ça peut constituer une catégorie en tant que telle, que j'appellerais une tension au niveau de l'émotion qui est apportée à un moment, une sorte de climax dans la narration, ou en tout cas parfois on a certains épisodes peut-être plus isolés du reste, où il se passe quelque chose de particulièrement tendu au niveau émotionnel, et donc ça pourrait aussi rentrer dans cette catégorie-là, mais je m'expliquerai peut-être un petit peu plus sur cette question. On commence donc tout de suite avec la tension narrative. La tension narrative, en soi, c'est tous les procédés au niveau de la manière dont on raconte une histoire qui vont pouvoir créer de la tension chez
le
téléspectateur. Oui. Quels sont les moyens pour créer de la tension chez le téléspectateur? Il y en a un certain nombre, évidemment. On peut penser à un premier modèle qui serait le mystère. Il y a l'idée qu'il y a une sorte de vérité qui nous est cachée, et tout le but de la série va être de découvrir la vérité. Alors évidemment, on peut penser à toute une série de... Il faut que j'arrête d'utiliser cette expression. À toutes les séries, et en tout cas une bonne partie des séries criminelles, entre guillemets, policières, qui sont centrées autour de la recherche du meurtrier, hein, du... qui a fait le coup. Là, on a clairement une forme de tension pour découvrir au final qui est le responsable du crime qui a été perpétré normalement au tout début de l'épisode 1, voire quand c'est une série à épisode clos, au début de chaque épisode. Je pensais par exemple comme série assez représentative de ce modèle-là, la série Broadchurch par exemple, qui nous propose un crime au tout début de la saison de l'épisode 1, et toute la saison va être construite comme la découverte progressive de la vérité, découverte progressive qui n'est évidemment jamais directe, hein, elle est toujours semée, parsemée d'embûches de toutes sortes. Alors évidemment, un des risques de ce genre de série-là, c'est que parfois on va avoir des séries qui vont nous créer une forme de tension autour d'un mystère, mais sans forcément toujours la volonté d'apporter une réponse à ce mystère, et ça peut provoquer un certain nombre de malentendus, voire de colère de la part des téléspectateurs qui sont en attente de quelque chose qui ne vient jamais. Ça peut évidemment arriver. On peut tous évidemment regarder du côté de Lost,
notamment
en pensant à ce modèle-là. Alors, on a ici, c'est vraiment plus l'envie de connaître la vérité qui crée la tension chez le téléspectateur. Parfois, c'est moins l'envie de connaître la vérité que le besoin de résolution, le besoin de justice, entre guillemets. On peut penser, par exemple, à une série comme Columbo. Dans Columbo, toute la tension n'est pas du tout provoquée par l'envie de connaître la vérité, puisque c'est dans les premières minutes de l'épisode qu'on sait qui a fait le coup. Et toute la tension, ben, c'est de...
savoir comment il va arriver à le démontrer.
Exactement. Et on a envie que ce sale type, en plus, très souvent, ce sont des gens qui sont plutôt très favorisés par la vie, hein, que va rencontrer l'inspecteur Columbo, et qui donc n'hésite pas à montrer un mépris vis-à-vis de l'inspecteur assez manifeste. Et tout, il y a une véritable envie d'atteindre une forme de justice, quoi, qui peut même aller jusqu'à une forme de justice sociale dans certains cas. Il y a vraiment un besoin de résolution, moins au niveau de la vérité cette fois-ci qu'au niveau de la justice. On a obtenu réparation pour ce qui a été fait. Et donc, ben, j'ai cité évidemment Columbo, qui est une sorte de modèle absolu de ce genre-là. Mais si, évidemment, toutes les séries ne sont pas aussi manifestement dans une catégorie. Si on pense par exemple à une série comme Law and Order, New York District ou New York Police Judiciaire, selon les différentes traductions qu'on a pu lui donner, on a quelque part la première partie, toute la partie policière, qui va plutôt se centrer sur la résolution de ce qui s'est passé, donc plutôt autour du mystère. Et puis, la deuxième partie qui, elle, va plutôt construire sa tension autour de la résolution. Est-ce qu'on va réussir à obtenir justice ? Et je dis ça, mais en même temps, d'un épisode à l'autre, c'est pas toujours le cas, parce que parfois, ce qu'on croyait avoir découvert comme vérité dans la fin de la première partie, se révèle être faux et remis en question dans la deuxième partie. Donc tout ça peut être assez bien mélangé, quoi. C'est pas aussi net que dans certains autres exemples. Donc voilà, ça sont les deux premières manières de maintenir une tension narrative. Alors évidemment, on peut penser à toutes les manières de construire le suspense. On a le fameux cliffhanger, hein, qui a souvent été utilisé dans les séries. Il me semble que c'est un petit peu moins le cas quand même maintenant. On joue un petit peu moins avec ça, mais certains ont pu encore essayer de maintenir l'intérêt du téléspectateur grâce à ça. Je pense par exemple à The Walking Dead, qui a beaucoup joué à ça, hein, à nous dire « Ah, mon Dieu, tel personnage est mort !» Et puis « Ah, mais non, en fait, il n'était pas mort, hein. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'ils ont été attrapés par Negan ? Est-ce qu'ils vont mourir ? Qui va mourir ?» Bon, toutes les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de regarder. Hein,
tu essaies de justifier
tu vois
ton choix.
Exactement. Mais donc, c'est cette méthode, entre guillemets, de maintenir une forme de tension véritablement quasiment vital, c'est quelque chose quand même qu'on a pu pas mal pratiquer dans les séries télévisées, que ce soit une saison entière de Dallas qui se termine par quelqu'un tire sur JR et puis il faut attendre tout l'été pour savoir si JR est bel et bien mort, ou bien il me semble que dans Urgence aussi ils ont pu un petit peu jouer à ça, à faire des accidents à leurs personnages et puis il va falloir attendre tout l'été avant de découvrir qui a survécu ou pas dans l'histoire. Donc c'est un jeu qui a pu être joué plus ou moins souvent par certaines séries. Évidemment, c'est un jeu un peu à double tranchant parce que si tu y joues trop, au bout d'un moment, les téléspectateurs finissent par se lasser quand même parce que ça perd toute crédibilité, quoi.
C'est comme quand on crie au loup, et puis finalement, la fois où ça va vraiment être important, on est lassé, on l'a trop vu, ton au loup.
oui, même si, dans ces cas-là, ils peuvent véritablement tuer quelqu'un à chaque fois. Hein,
oui, mais c'est ce niveau-là, ça devient banal.
Oui, c'est un petit peu ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, à force d'avoir tué tout le monde, ça devient une forme de routine et on perd.
On est même déçu quand il n'y a pas de mort.
Oui, ou bien ça change. Hein. Ça peut faire des vacances aussi.
Oui, mais on est déçu.
D'accord.
Oh, zut, ils ne suivent pas leur lignée. Zut.
Toi, t'es déçu quand même. Mais, donc, voilà, toute cette dimension de suspense où on a vraiment des enjeux de vie ou de mort, ça, c'est aussi un moyen très très utilisé de maintenir l'attention, mais comme je l'ai dit, un moyen qui est parfois tellement facile que ça finit par se retourner contre la série elle-même. Un autre moyen qui peut être utilisé aussi, c'est l'espèce de course contre la montre qui va pouvoir être proposée dans certaines séries. On a un enjeu extrêmement grave qui va arriver à un temps précis et donc on fait monter de plus en plus la tension au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance. Bon, le modèle de ça, évidemment, c'est 24 heures chrono, même si personnellement je ne l'ai jamais regardé, donc ce n'est que ce que j'en imagine, mais il y a vraiment l'idée qu'il y a un enjeu très grave qui va exiger une action assez rapide de la part des personnages principaux. Et évidemment, tout se construit de manière à monter la tension de plus en plus, puisque on approche du moment où ce sera trop tard. Et donc, toute la question, c'est est-ce qu'on va arriver à temps ? On peut aussi avoir ce genre de course contre la montre à certains moments dans des séries où il s'agit de sauver quelqu'un et on sait très bien qu'à chaque fois on nous montre le policier ou la personne en question réussir à ouvrir la porte ou réussir à faire sortir la personne de l'eau ou quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, au tout dernier moment, une seconde de plus et il était mort, quoi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez récurrent aussi. À noter que ce jeu-là, ça marche pas à tous les coups. Enfin, je pensais principalement à la série The Bridge. Je sais pas si tu te souviens.
Oui.
Où là, on a cette tension-là. Et désolé de spoiler un petit peu, mais en même temps, si vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est inévitable. Mais là, on n'arrive pas à sauver la personne en question. Et donc là, on est tout à coup totalement désarçonné parce qu'on a tellement été habitué à ce genre de construction comme ça où on monte de plus en plus en tension, mais on sait en même temps que ça n'est qu'un jeu parce qu'au dernier moment, la personne va être sauvée. Et puis là, ben non, en fait, c'est pas le cas. Et ça, c'est fou comme ça change tout à coup. On se retrouve totalement
décontenancé.
Oui,
ils ont été malins.
Exactement. Ça, je dois dire que c'était pas mal. Donc voilà, la course contre la montre, c'est aussi une manière assez traditionnelle de construire de la tension. Autre manière à laquelle j'ai pensé, mais c'est plus au niveau du montage de la série, de la construction de la série en tant que telle que je situerais ça, où on a une forme de ritualité dans la manière de présenter à la fin de chaque épisode, par exemple, mise en parallèle toutes les bouts de vie des personnes qui sont concernées et avec une musique un petit peu entraînante qui nous dit ben voilà où nous en sommes actuellement et on sait toujours pas qui a fait le coup. Bon, je sais pas si tu vois à quelle série je fais référence ici. Est-ce que tu vois ou pas ?
Non, pas comme ça.
Je pense à The Killing.
Oui.
Est vraiment construit comme ça où chaque fin d'épisode t'as la musique avec mis en parallèle comme ça bout à bout chacun des personnages au moment où ils se trouvent dans la progression de l'histoire. Mm-hmm. Et on a vraiment la musique qui fait monter la sauce comme ça où on se dit ben voilà
maintenant que t'en parles
informations là,
mais oui, ça m'avait pas marqué comme ça, mais oui,
hein, il y a vraiment au niveau du montage de la série et du fait que chaque fin d'épisode, on sait qu'il est construit de cette manière-là. Il y a une manière comme ça de maintenir l'intérêt du téléspectateur qui a envie de revenir pour l'épisode d'après. En tout cas, c'est l'impression que j'en garde.
Mais bon, voilà, moi, c'est Holder qui me fait chavirer, donc
oui, évidemment,
la fin d'épisode...
Tu n'as pas besoin de ça.
Ah, voilà. Je m'en souviens maintenant, mais c'est pas ça qui me marquait le plus.
Oui, d'accord. Bon, je donne le dernier, la dernière méthode pour construire une forme de tension narrative à laquelle j'ai pu penser, c'est au niveau plus là de la manière de raconter quand on nous présente véritablement des trajectoires de personnages, on va avoir là aussi une forme de tension assez naturelle parce qu'on sait que dans une trajectoire, il y a l'idée qu'on va vers une fin et tout l'enjeu, c'est de savoir vers quelle fin est-ce qu'on se dirige. Il y a évidemment dans toute l'idée de cette construction de la tension, l'idée qu'on cherche une forme de but, quoi. On est censé arriver à quelque chose. Et donc, je pensais par exemple aux trajectoires tragiques que peut présenter Breaking Bad ou Better Call Saul, où on a la construction du récit qui nous met assez rapidement dans l'idée d'une trajectoire où on sait que c'est une forme de destin tragique qui va mener le personnage à sa perte. Et donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, on a de plus en plus d'éléments qui viennent se rajouter pour montrer de quoi sera constituée cette perte en question. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt, quoi. C'est de voir cette fin se construire petit à petit devant nos yeux.
Voilà.
T'avais c'est... quelque chose.
Non, mais tu termines en apothéose comme ça.
Ah, d'accord, ok. Tu veux que je continue ou.
Ce serait bien de marquer une pause déjà.
Ce serait bien de marquer une pause. Ok, d'accord. Bon, alors la pause, ce sera What You Need de In Excess, entendu dans Sex Education.
This is not the end of love. Don't you see, it's real. Take you where you really need to be. Oh. Oh, oh,
il est temps d'aborder déjà la dernière partie de cette émission, la tension dans les séries télé décrites par Aurore.
On continue ?
Oui.
Alors, on a parlé de la tension narrative pendant toute la première partie, donc on va parler des deux autres maintenant, en commençant par la tension qui est construite grâce aux relations entre les personnages. Alors, il y a évidemment différentes manières de construire cette tension, mais il est intéressant de noter que cette tension entre les personnages, bien souvent, va refléter les enjeux idéologiques d'une série. Bien souvent, quand on nous présente comme ça deux ou plusieurs personnages qui soit s'affrontent, soit coopèrent, ben, on va avoir ces personnages qui représentent plus que simplement un individu, mais qui représentent des valeurs, et donc on va avoir comme ça une confrontation entre différentes valeurs qui nous est proposée par la série en question. Donc on a différents scénarios possibles, on a le duo, hein, où on va avoir plutôt des personnages qui collaborent mais qui vont pouvoir être très différents dans leur manière de fonctionner et donc dans les valeurs qu'ils sont censés porter. On peut penser notamment et c'est beaucoup ici sur les modèles de masculinité à des séries comme Lethal Weapon ou bien Supernatural qui nous présentent à chaque fois un duo de personnages masculins qui représentent chacun une manière différente d'être un homme et on voit à quel point c'est de manière se complètent, c'est moins dans la confrontation que véritablement dans la manière de réussir à combiner ces deux modèles-là que les séries vont jouer. On a, par rapport au duo, on va avoir le duel aussi, c'est-à-dire des confrontations, là, véritablement, de deux personnages qui sont très antagonistes. J'avais pensé, par exemple, à Sherlock et Moriarty, même si ben, Sherlock, il forme aussi un duo, et d'ailleurs un duo masculin également, hein, puisque avec le docteur Watson, on pourrait se dire aussi que ce sont deux modèles de masculinité différentes qui collaborent. Mais il y a quand même un certain nombre de séries qui vont nous présenter comme ça des duels entre personnages. À noter évidemment que parfois c'est l'ensemble de la série qui est construite autour de ces duels et puis parfois c'est simplement un épisode ou c'est simplement plus une trame narrative qui va être construite sur cette opposition là et pas forcément l'ensemble de la série. Mais évidemment, quand c'est l'ensemble de la série, c'est beaucoup plus significatif au niveau du message qu'essaie de nous transmettre la série en question. On pourrait penser, par exemple, qu'une série comme Buffy contre les vampires, en nous proposant une sorte de confrontation entre Buffy et Spike, par exemple, qui, quand même, la plupart du temps, sont dans la conflictualité, ben, ça permet d'apporter un certain message sur, sur la part sombre qu'on porte en nous et la manière dont il faut y céder ou pas. Enfin, y a une véritable réflexion qui est apportée grâce à ça. À chaque fois, donc, c'est cette manière de présenter des personnages en tension, ben ça va permettre de maintenir l'intérêt du téléspectateur et de lui donner envie de revenir. Et on va avoir la même chose quand il ne s'agit pas de deux personnages, mais quand il s'agit de groupes plus étendus. On peut penser à des dynamiques familiales, des dynamiques plus de travail, hein, comme...
Sons of Anarchy.
Pourquoi pas Sons of Anarchy ou The Office dans un genre très très différent ou bien pourquoi pas Les Experts dans un genre encore tout à fait différent. À chaque fois, c'est moins des individualités qu'on a que des types qui représentent vraiment un ensemble de valeurs, une manière de vivre, etc. Et donc, c'est la confrontation de ces différents types qui fait le sel de la série. Ou bien alors, on va aussi avoir des milieux en tant que tels. Je pense par exemple à la série Oz, qui nous présente aussi comme ça un ensemble de personnalités assez fortes qui vont parfois se confronter, parfois collaborer, mais qui vont construire véritablement un intérêt et une tension au sein de ce qui nous est raconté. Et puis, parfois, on a aussi le personnage tout seul, à lui tout seul, qui arrive à maintenir une forme de tension. Ce sont les personnages qui sont vraiment sur le fil du rasoir, qui sont toujours à la limite de passer du côté soit obscur, soit du côté de l'illégalité, ou du côté de la folie, etc. On peut penser qu'un personnage comme Dr. House, par exemple, arrive assez bien à faire ce jeu de funambule qui maintient sans cesse notre intérêt. On a à la fois une forme de tension qui se joue dans la relation qu'il peut avoir, que ce soit avec son ami... dont j'oublie là maintenant le nom, mais tu vois de qui je veux dire, le cancérologue avec qui il est ami, ou parfois avec sa boss aussi, que dit, si je me souviens bien, avec lequel d'ailleurs la tension n'est pas que purement professionnel, puisqu'on a aussi une tension amoureuse qui va se construire. Ce qui nous mène justement à la tension amoureuse. Alors il y a trois grands modèles auxquels j'ai pu penser là, hein. On a les Will They, Won't They, hein. Est-ce qu'ils vont un jour réussir à se mettre ensemble ou pas, le fameux mystère où finalement on rejoint la tension narrative avec la question de la résolution. On a le triangle amoureux, qui va-t-il ou va-t-elle choisir ? Et puis, on a l'amour qui rencontre un tas d'épreuves. Et toute la question, c'est est-ce qu'un jour, ils arriveront à véritablement retrouver l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre ? Ou est-ce que ces épreuves vont finir par les séparer définitivement. À noter que ce qui est intéressant dans la tension amoureuse, c'est que on a l'idée de quelque chose, d'une forme de destinée. Il y a l'idée dans la tension amoureuse que si on arrive finalement à se mettre ensemble ou réussir à se retrouver, eh bien, on a une forme de confirmation que mais c'était écrit, c'était comme ça. L'amour est véritablement envisagé toujours comme une sorte de destin qui est écrit à notre place. Et donc, quand on regarde les séries avec une tension amoureuse et que cette tension arrive à résolution, on a une forme de confirmation que c'était écrit et qui nous donne un plaisir assez unique. Ce qui est à noter, c'est que les séries, par rapport à d'autres récits qui, eux, s'arrêtent, ben, les séries, parce que justement la vie continue bien souvent, parce que bien souvent c'est pas parce que les deux personnages se sont mis ensemble que la série va s'arrêter, eh bien cette forme de résolution va être remise un petit peu en question. Hein. On va un petit peu s'éloigner du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » pour se demander « ah mais après avoir résolu cette tension amoureuse, qu'est-ce qu'on a ?» après. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et les séries sont particulièrement bien placées là pour nous faire vivre l'ensemble de ce processus, autant toute la période de tension amoureuse, la résolution, et puis aussi le « et après, qu'est-ce qui se passe une fois que la résolution a eu lieu ?» Enfin, la dernière tension dont j'avais parlé, c'était la tension émotionnelle. Et j'avais parlé de certains épisodes, des bottle épisodes, par exemple, qui sont particulièrement forts en émotion. J'avais pensé, par exemple, à l'épisode de DFR où on a l'accouchement d'Alison, qui était un épisode quand même extrêmement fort en tension émotionnelle. On peut penser aussi à l'épisode, à nouveau le bottle épisode The Fly dans Breaking Bad, où on a toute une tension aussi entre les quelques personnages qui sont en huis clos pendant l'ensemble de l'épisode. Le huis clos arrive particulièrement bien à construire une forme de tension émotionnelle, justement. Voilà. Toute la question maintenant, c'est, et j'ai pas la réponse du tout, c'est quel est l'impact finalement qu'a cette tension particulière des séries, parce que par rapport à d'autres, comme je l'ai dit, cette tension, une fois qu'elle est résolue, il faut la relancer ou bien elle doit trouver d'autres manières de survivre, mais il n'y a jamais une résolution définitive où on se dit ça y est, il y a satisfaction, on a la vérité, on a la justice, on a l'amour. Après, il y a encore des choses dans les séries et ce serait intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce que ça change pour nos mentalités à nous de se dire que à atteindre ce pic-là, ce climax-là, mais c'est pas la fin en soi. Ça, c'est une question que je me pose. Voilà.
Merci, Aurore. Ce sera le mot de la fin.
Mais de rien.
Musique pour se quitter.
Musique, on va s'écouter Blood Flood de Alt J, entendu dans Made in Chelsea.
Parfait. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.